France Royal des Jeunes, un petit peu de musique cheap, s'il vous plaît.
Avant de parler, j'aimerais dire quelque chose.
Les cyniques. Méchante révolution.
Selon la rumeur, on serait censé faire un spectacle méchant.
Vous allez voir que ça swing à mort.
Un portrait du groupe d'humoristes le plus influent de la Révolution tranquille.
Une bonne main d'applaudissements. Un godin à Vaplaze pour...
Les cyniques.
Les cyniques.
Les cyniques.
Les cyniques.
Les abominables cyniques.
Les cyniques, c'est les cyniques.
Au plus grand groupe humoristique que Québec ait jamais connu, les Gérolas. Alors, excusez, les cyniques.
Les cyniques ont été, sans aucun doute, des révolutionnaires tranquilles de premier plan. Et les cyniques ont été vus par plus de monde que la plupart des participants politiques de l'époque et pendant des années.
Entre 1961 et 1972, un quatuor d'humoristes a contribué de manière inédite à l'évolution de la société québécoise. Spécialistes de l'humour grinçant, les cyniques ont traversé leur époque en épargnant personne, du clergé aux hommes politiques en passant par les représentants de l'ordre et les icônes du milieu artistique québécois. À l'aube du 50e anniversaire de la création du groupe, les cyniques Marc Laurendeau, André Dubois et Serge Grenier se sont réunis le temps de raconter leur histoire, en l'absence bien sûr de leur collègue Marcel Saint-Germain, qui s'est éteint en décembre 2007. Voici donc la première d'une série de trois émissions qui dresse un portrait du groupe d'humoristes le plus populaire et le plus irrévérencieux de son époque et dont l'aventure est indissociable de celle de la Révolution tranquille.
Fini la rigolade, le Québec est malade.
Voici venir la noirceur, here comes the black nun.
La grande noirceur, pour moi, c'est pas un mythe. Ça a existé.
Marc Laurendeau.
C'était une lourde censure. Il y avait une entente implicite entre l'Église et l'État là, à cette époque. C'est-à-dire, vous faites respecter les bonnes mœurs et nous, on va s'organiser pour que les ouailles votent pour vous. Une espèce d'entente implicite et qui est devenue, sous Duplessis, assez explicite même. Il y a des curés en chair qui disaient que l'enfer est rouge, libéral. Il y avait une certaine chape de plomb là qui pesait sur le Québec. Je l'ai vécu, moi. Je l'ai constaté. On en parlait avec mes parents, avec mon entourage. Et j'ai vécu dans ce contexte-là. On n'imaginait pas l'évolution des institutions. Et à mon avis, ceux qui disent qu'il n'y a rien qui a changé en 60 sont des révisionnistes. Il y a eu des changements, là, à la Révolution tranquille.
Le 22 juin 1960, le Parti libéral de Jean Lesage remporte les élections.
Mesdames, messieurs, la machine infernale, avec sa figure hideuse, nous l'avons écrasée.
Quand Lesage prend le pouvoir, c'est incroyable.
André Dubois.
Tu sais, si je compare, par exemple, à ceux qui ont vécu l'élection du Parti québécois en 1976, pour moi, le sentiment de libération, entre guillemets, ou de renouveau, ou ça y est, on a réussi quelque chose d'incroyable, était plus fort lors de l'élection du Parti libéral en 60 que ce qu'on a pu ressentir lors de l'élection du Parti québécois. C'est vous dire l'importance de ce qui est en train de se passer.
1960, c'est une année magique, je dirais.
Serge Grenier.
La société sortait, venait de se libérer d'un carcan tellement serré, tellement étouffant que ouvrons les fenêtres, aérons et sortons et faisons circuler de nouvelles idées. Ce qui nous amenait, par la force des choses, à être assez critique de l'époque que nos parents et nos grands-parents avaient connue et de la mainmise de l'Église catholique sur la société.
À l'automne 1960, trois des futurs cyniques font leur entrée à l'Université de Montréal. Serge Grenier est étudiant à la faculté de philosophie, tandis que Marc Laurendeau et Marcel Saint-Germain ont choisi la faculté de droit. Les futurs avocats arrivent du même collège où ils ont développé certaines affinités.
Au Collège Sainte-Marie, nous avions accès à une scène et à une culture de théâtre assez développée. Si bien que certains d'entre nous faisions du théâtre, j'en ai fait, Marcel Saint-Germain en a fait, André Dubois a rédigé des textes pour des soirées qu'on appelait de parascolaires, le terme était parasco, où il y avait des numéros satiriques sur l'actualité, sur les professeurs aussi qui étaient montés. Alors, il y avait une espèce d'exutoire par rapport à la vie un peu monotone d'étudiants qui apprenaient le latin, le grec, les humanités, la poésie et tout ce qu'on voudra. Il y avait un exutoire qui était la scène. C'est un peu cette formation, cette culture, cette attirance que nous nous sommes développés.
Marcel Saint-Germain.
J'avais tout ça latin au collège, ce sens de l'humour-là, dès les jeunes années, les éléments latins jusqu'aux deux philosophies. J'ai toujours été porté à me diriger vers la scène du Jésus. Parce que c'était au collège Sainte-Marie, alors on avait accès à cette merveilleuse vieille scène de Montréal. Et même lorsque, je me souviens, au collège, on avait accès à cette scène-là lorsqu'on était en versification. On avait 15-16 ans, on était devenus des petits hommes. Puis moi, je demeurais à Châteauguay à l'époque, et puis on répétait des petites pièces de théâtre en méthode ou en syntaxe, et puis je couchais dans les coulisses du Jésus. Je m'abriais avec les costumes du Cid.
Marc Laurendeau, avec d'autres étudiants en droit de l'Université de Montréal, vous avez présenté au Jésus 12 hommes en colère de Reginald Rose.
Extrait de l'émission Métro Magazine du 28 février 61 avec Janine Paquet.
Est-ce que vous pensez que le fait de jouer la comédie peut aider les futurs avocats à exercer leur métier futur?
Sûrement. Non, pas parce que le métier d'avocat est un métier où on joue la comédie. C'est pas ça que... J'imagine que c'est ça que vous essayez d'insinuer. Mais parce que ça facilite l'expression d'idées et de sentiments en public. C'est bien évident.
À l'Université de Montréal, moi, j'ai continué à faire du théâtre. Marcel, non. Mais avant l'existence des cyniques, nous avons commencé à faire sur scène des petits numéros à deux. D'ailleurs, c'est un peu comme ça qu'a été construit un des numéros là, qui est sur 10, qui s'appelle Les Assassins.
Le métier d'assassin est un métier
important.
Un métier épuisant. Métier exténuant où l'on se tue à l'ouvrage. Métier intelligent, je tire, donc je suis. Nous allons vous donner sur ce métier quelques évidences, quelques vérités de la police.
D'abord, il faut savoir comment tuer. Il est savant d'assassiner avec l'épée. C'est la méthode du bachelier Ace Cream.
Puis avec une hache, c'est prétentieux. C'est même un peu fendant.
Quand on tue avec une arme à feu, on échauffe les esprits. On risque de brûler les États.
Ensemble, nous avons monté des petits numéros que nous donnions dans des occasions comme une danse de faculté ou lors d'un spectacle midi, lors d'un carnaval, ce genre de choses là, que nous faisions lors d'une occasion spéciale. Alors, on a commencé un petit peu à prendre goût à ça.
Entre-temps, moi, j'étais arrivé en septembre 1960 sur le campus, en même temps que plein de gens.
Serge Grenier.
Je pense à toute la gang du collège Sainte-Marie, Marcel Saint-Germain, Marc Laurendeau, Stéphane Venn, Pierre Letourneau, François Cousineau, d'autres collèges. Il y avait Bernard Landry qui est arrivé. Il y avait Pierre Marois, l'ancien ministre. Il y avait tellement de gens qui se sont retrouvés à mettre les pieds sur le campus la même année, en septembre 60, que ça en était presque magique. Et bon, il y avait tout le groupe du Sainte-Marie. Ces gens-là se connaissaient déjà. Moi, je ne les connaissais pas, mais on s'est vite connus, on s'est vite reconnus, en ce sens que on s'est tous trouvé presque un objectif commun, celui de brasser la cage, littéralement.
Tout le monde avait des idées dans quelque chose. Alors, Denis Arcand, c'est sûr, Denis Héroux, c'était le cinéma. Stéphane Venn, c'était la chanson.
Le compositeur et musicien, François Cousineau.
Moi, je jouais du piano pour tout le monde. Les cyniques, c'était les humoristes, les écrivains, les politiciens étaient là. Tu sais, c'était vraiment le fond. On avait une belle cuvée. Alors, pour l'atmosphère, là, c'est bravo.
C'est dans cette effervescence qu'à l'automne 61, les étudiants Denis Arcand, Stéphane Venn et Denis Héroux réalisent le film « Seul ou avec d'autres » sur le campus de l'Université de Montréal.
Le film « Seul ou avec d'autres » a une dimension sociologique.
Marc Laurendeau.
Il montre, au fond, ce qui pouvait se passer sur le campus en pleine révolution tranquille. Et l'esprit qui régnait à l'époque, un peu désinvolte, mais en même temps, poussé vers le changement, là. Il y a quelque chose de contestataire, d'un peu délinquant dans « Seul ou avec d'autres ». Et ça reflète parfaitement cette ambiance-là.
De source, c'est sûr que jamais les plaisances étaient vérifiées à la Faculté des arts. Ce qui...
qui me permet de manquer assez souvent. Mais c'est ce qui se peut dire souvent, tu vas apprendre.
Je vais apprendre à savoir parler au cours.
Ah oui.
Le film est bâti sur une idylle amoureuse entre un personnage joué par Pierre Létourneau, une jeune femme, Nicole Brown, mais qui se promène à travers l'université. Et il y a toutes sortes de situations, et une de ces situations, c'est que au centre social, lors du début de l'initiation, les deux amoureux sont là, et on a filmé ce qui s'est produit en fait. C'est le monologue du chapelet en famille que j'ai livré à ce moment-là. C'est que, il faut se reporter à 1961, à la radio de CKAC, on entendait quotidiennement le cardinal Léger, en direct du palais cardinaliste d'ailleurs, qui récitait le chapelet. C'est une émission archi-connue.
Est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout puissant, lui viendra juger les vivants et les morts.
Et en même temps, il y avait une autre émission qui s'appelait « La lutte » avec Michel Normandin.
Et voici maintenant votre soirée de lutte. Un hommage de la brasserie Dow.
Bonsoir, amateurs de lutte. Encore une fois, nous vous parlons du Forum à Montréal. C'est « La lutte » ce soir.
Beaucoup de gens regardaient ça, puis c'était assez cocasse la manière dont ils décrivaient les choses. La prise de l'aéroplane, etc. Alors, il y a un côté cocasse. Alors, il suffisait, au fond, de décrire ce phénomène archi-connu qui était le chapelet en famille et de le décrire comme un match de lutte. Et c'est ça, au fond, le numéro, qui est dans Seul ou avec d'autres. Et puis, qui a un côté subversif, alors, et qui a fait beaucoup de vagues là, à l'époque.
Bonsoir, bonsoir, amateurs de rosaire. Directement de Montréal, voici votre soirée de culte. Une gracieuseté de la brasserie Dow et des Jablais Casse-Grain Limité. Bonsoir, les prieurs. Il y a foule ce soir au ballet cardinalis. Le clergé est bien représenté, c'est noir de monde. En vedette ce soir, les mystères douloureux. Parmi les invités, nous apercevons des dames, une coiffure à la main, elles se coiffent. Nous apercevons des sœurs, un voile à la main, elles se voilent. Nous apercevons un évêque, une crosse à la main, quel beau cortège! Ding, ding! Oh, l'officiel a donné le signal. Les adeptes du mysticisme attaquent le credo classique. Puis c'est la prise de conscience, le ciseau de corps mystique et la savate franciscaine. Savate tapochée. Pow! Et c'est un magnifique coup de gloire soit au père. Bordé par sœur Émilie de la Force. La merveille masquée.
C'est la plus ancienne archive des cyniques qui n'était pas encore les cyniques, mais qui allait le devenir. C'est un numéro pivot, je dirais. Parce que les gens, en allant voir les cyniques, pour le premier ciné cabaret, savaient qu'ils allaient entendre ce genre de choses. Le coup d'envoi avait été donné, là.
À cette époque, Bernard Landry est président de la Faculté de droit et de l'Association générale des étudiants de l'Université de Montréal.
La GEUM a aidé matériellement à la naissance des cyniques et de quelques autres actions culturelles dans le domaine du cinéma en particulier, parce que la GEUM avait des moyens financiers déjà. On avait... je le dis en rigolant un peu, nationaliser les machines distributrices. C'est-à-dire que nous avions réclamé que la GEUM possède les machines distributrices, donc on encaisse les profits, plus les cotisations. Alors, ça nous donnait des moyens financiers, et on servait des moyens financiers pour supporter un journal qui s'appelle Quartier Latin, et pour supporter diverses autres activités, dont les activités culturelles, les cyniques et le cinéma.
Marc Laurendeau.
Au début de la saison automne 61, Denis Arcand qui me contacte et qui me dit « Est-ce qu'après le film, tu ne pourrais pas monter une petite troupe qui ferait un spectacle sur scène, un spectacle drôle qui attirerait les gens? » Les gens iraient d'abord voir le film le samedi soir et descendraient au centre social pour assister à un spectacle drôle. Et j'ai pas eu besoin d'y réfléchir longtemps. Et là, je connaissais des gens, au fond, qui pouvaient faire ça. Je me suis informé. Alors, j'ai pu mettre en place pour le 28 octobre 1961 le premier spectacle des cyniques. Nous étions, je dirais, 9 à peu près environ, et où il y avait de la musique et des numéros. Il y avait là-dedans, évidemment, Marcel Saint-Germain, Serge Grenier, déjà, d'autres comme Gilles Marien, Hélène Damour, Hélène Cousineau, Michel Provost, François Cousineau. Alors, nous étions quelques-uns et on avait 4 ou 5 numéros.
À l'automne 61, André Dubois fait son entrée à la faculté de droit de l'Université de Montréal.
Quand j'arrive sur le campus, très rapidement, j'entends parler du phénomène des cyniques. Et il y avait une réputation invraisemblable qui précédait le premier spectacle comme tel des cyniques. Comme tout le monde, je me suis fait un devoir d'être là, parce que c'était quelque chose qu'il ne fallait pas manquer. Et j'ai eu de la misère à entrer moi-même au Café Campus, tellement il y avait du monde, tellement la mise en marché du premier spectacle des cyniques avait été bien faite. Et finalement, le spectacle commence.
Je suis le frère Serge. Et ma communauté, qui désire que je fasse du recrutement, m'a demandé d'écrire une chanson afin de vous convaincre tous, tant que vous êtes, de vous joindre à nous. La chanson s'intitule assez galamment d'ailleurs « Le rock'n'roll du Sacré-Cœur ». Vous allez voir que ça swing à mort. Et pour chanter avec moi, il y aura le frère Marcel. Ce bon frère Marcel. Ouh!
Il y avait Grenier, je pense, à ce moment-là, qui avait fait Les Frères du Sacré-Cœur, encore là, oser aborder la thématique de ce qui se passait derrière les portes closes dans les collèges. C'était incroyable. Et de le faire aussi avec beaucoup d'humour.
Frère du Sacré-Cœur, un jour. Frère du Sacré-Cœur, toujours. Frère du Sacré-Cœur à deux, frère du Sacré-Cœur heureux.
Nous sommes des hommes, nous sommes des insoumis. Voyez nos habits défraîchis, voyez comme nous sommes mal nourris. On pratique la pauvreté d'esprit.
Je me souviens que Laurendeau a fait son discours du politicien, donc qui dénonçait les pratiques corrompues, mais avec un style absolument mordant et drôle.
Mes chers amis, j'étais impatient de vous serrer la main de vive voix. Et ce n'est pas le député qui vous parle, c'est l'honnête homme.
Marc Laurendeau a repris ce numéro en octobre 1994 à l'émission CBF Bonjour.
Et c'est avec des tales de sentiments dans les plates-bandes de mon cœur en floraison que je suis heureux de dire ce que je disais hier dans le comté voisin, à savoir que je suis dans le plus beau comté de la province. Le comté que j'ai reçu mon instruction dedans. Le comté où j'ai été élu par exclamation. Devant ma ville natale, mon clocher natal, mon cimetière natal.
Dès le premier ciné-cabaret, premier spectacle des cyniques, apparaît ce personnage d'un député de l'Union nationale, avec les vieilles formules, avec la vieille éloquence, les promesses électorales extravagantes, les promesses de bout de route, etc. C'est très, très ancien régime, mais il ne faut pas oublier que c'était encore très, très, très présent dans le paysage. L'Union nationale, à cette époque, même si elle avait été défaite aux élections, était quand même la force d'opposition. D'ailleurs, elle allait revenir en 66. Alors, c'était une caricature qui correspondait à la réalité de cette époque-là, dont on commençait à sortir.
Avec l'Union nationale, le gouvernement que je travaillais pour, l'agriculture sera bien défendue. Où est-ce qu'il y a de cotonem jusqu'au coton? Car, selon l'expression venue du tiroir, protéger les cochons, c'est nous protéger nous-mêmes. Et je pourrais vous faire des promesses que je vais tiendre, mais que je ne m'attarderai pas à énumérer ce soir. À savoir... Primo, les ceux qui gagnent pas une scène, nous allons doubler leur salaire. Deuxio, nous allons bâtir un pont ici, au-dessus du Saint-Laurent, dans le sens de la longueur. Troisio, si vous m'élisez, je serai 24 heures sur 24 à votre disposition et le reste du temps à ma table de travail. And now for the English Quebecers.
Bravo!
Ladies and gentlemen, I thank you from the bottom of my heart. And my wife, she thanks you from her bottom too.
Ça a été une succession de sketchs incroyables, d'une audace. On est sorti de là transformé. Tout ça était des thématiques qui n'avaient jamais été utilisées ou discutées ou qui n'avaient jamais servi d'inspiration des sketchs. C'était très audacieux.
Marc Laurendeau.
Nous trouvions que l'humour d'alors était trop complaisant, sympathique, mais bon enfant. On appelait ça l'humour rose à l'époque.
Extrait d'un spectacle de l'humoriste et chanteur Jacques Normand en novembre 58.
Il y a des tabous et c'est normal, autrement je pourrais dire du mal. Des choses que tous l'on respecte, et même d'une façon circonspecte. Y toucher ne m'est pas permis, et pour plusieurs c'est mieux ainsi. Non, je ne le dirai pas, mesdames, non, je ne le dirai pas, messieurs. Je ne voudrais pas faire de drame, et entre nous, c'est-y pas mieux.
Il y avait les Jacques Normand, les Paul Berval, mais il y avait aussi, ben, dans l'excellence, là, moi j'appellerais Dominique Michel, Denise Filiatro et Chemiville. Chemiville, par exemple, était une émission qui nous a inspirés, influencés et qu'on trouvait bonne, mais à cause des exigences de Radio-Canada à l'époque, elle était très respectueuse, hein, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas aller trop loin, c'est-à-dire sur le plan de la méchanceté et de respect des institutions. Alors ça aussi, ça faisait partie du paysage.
Nous voici de retour au rendez-vous du rire, aujourd'hui encore plus nombreux. C'est que nos blagues ont fait tout le tour du navire, et plus on est de fous, plus on s'amuse mieux. Un monsieur ce matin nous a dit, l'air féroce, c'est à cause de vous que je n'ai pas dormi, car depuis notre nuit de noces, ma femme n'a jamais tant ri.
Instinctivement, on trouvait que ça allait pas assez loin, et qu'il fallait aller plus loin. Et que ça répondrait à un besoin. Alors, on ne s'assoyait pas, je ne sais pas moi, un samedi après-midi en disant « Que pourrions-nous faire un humour un peu plus méchant? » Non, ça ne se passait pas vraiment comme ça. Ce n'était pas théorique. Hein. Ça nous passait par les pores de la peau et c'était instinctif.
Dès le deuxième ciné-cabaret, le mois suivant, de nouveaux membres se greffent à la troupe des cyniques. Parmi eux, André Dubois.
Ça, c'était... Quelques semaines après le premier ciné-cabaret des cyniques, j'ai effectivement écrit des textes dans lesquels j'imitais à peu près tous les profs de droit qu'on avait à cette époque-là. Et ça aussi, ça avait très bien marché. Et Marc Laurendeau était dans la salle, parce qu'il était étudiant en droit. Puis, ça faisait partie un petit peu de son mandat d'aller chercher les nouveaux éléments comiques sur le campus. Alors, après le spectacle, il vient me voir et dit « Écoute, André, j'ai bien aimé ce que tu as fait. Ça te tenterait-tu de faire partie des cyniques? » Là, j'ai failli avoir une syncope parce que, tu sais, c'était un groupe tellement prestigieux qu'on me demande à moi de participer à faire partie de ce groupe-là, c'était comme incroyable.
Nous sommes maintenant dans une caserne de pompiers. Et c'est aujourd'hui que le chef de pompiers a décidé que vraiment, ça n'allait plus. Alors, il a décidé tout simplement d'engueuler ses âmes.
Rassemblement. Attention. Station numéro 5, fermez-vous à gueule. Ça va mal en tabaslac. Comme dira feu mon père, on a l'air swing. Notre prestige s'en va. La motte, tu conduis bien que trop vite. Hier, t'as manqué de rentrer d'un arbre avec le grand camion. Je comprends que c'est pas grave si on tient pas compte des deux femmes écrasées, mais les gens vont jaser. D'ailleurs, il est reconnaissable ton rire.
Extrait de l'émission 20 ans express du 2 mars 63 avec l'animateur Louis Martin.
Pourquoi ça s'appelle Les Cyniques, ça, votre groupe exactement?
Parce qu'on se spécialise dans l'humour plutôt méchant, visuellement. L'humour affreux, l'humour noir.
L'humour comme ça, macabre.
Ouais. Et combien de membres compte la troupe des Cyniques?
14 au complet.
On l'a présenté au bout d'un an et demi, après 61, là, un spectacle à la Comédie canadienne. C'était en janvier, où on était là, entre 12 et 15. Il y a un certain nombre de personnes qui faisaient plus de numéros, donc qui consacraient plus de temps, qui avait été relevé par la critique aussi à l'époque. La critique avait relevé ces personnes-là. Et finalement, on a commencé à un moment donné à avoir des invitations pour les boîtes à chansons du Québec. Et on ne pouvait pas y aller à 12. Là.
Oui, l'aventure du groupe élargi, c'était très variable. Hein?
Serge Grenier.
Il y a des gens qui sont passés par là une fois pour un numéro. C'est pour ça que je dis qu'essentiellement, le groupe se résumait à 4. On est devenus les quatre comme les gens nous ont connus.
Je me sens très seul sans toi. Dis-moi quand tu y vas, me reviens aideras. Je n'en peux plus de me retiendras. Tu es ma reine, je suis ton roi.
Oui, j'étais un fidèle spectateur, un admirateur.
Bernard Landry.
Je les aimais personnellement, individuellement. J'ai trouvé que c'était des gens très bien. On était fiers d'eux. C'était nos confrères. C'était des juristes surtout. C'était des gens de droit. Rapidement, on a oublié l'aspect juridique des choses et on s'est bien rendu compte, dès les premiers spectacles, qu'ils étaient pour jouer un rôle déterminant dans cette révolution tranquille. Parce que il faisait passer des messages qui étaient des messages d'une certaine austérité, mais en rigolant. Nous étions probablement les plus cathos du monde occidental à l'époque. Alors là, les cyniques, évidemment, ont abondamment rigolé de ça.
Et pour tester la montre Timex, nous l'avons confiée à un éducateur et le frère Rosaire.
Ici le frère Rosaire. Pendant une semaine, je l'ai porté à mon poignet. Et pourtant, elle fonctionne encore.
Le cynique Marcel Saint-Germain.
Il faut penser que lorsque nous avons commencé, le cardinal Léger régnait en maître non seulement sur Montréal, mais sur à peu près tout ce qu'il y avait au Québec.
Petits enfants qui s'engouffrent dans des salles de danse ou dans des salles d'amusement et qui sont gavés de ces pilules nouvelles qui donne la sensation d'une certaine joie.
Les curés étaient, on sait, on les connaissait, on le sait maintenant, mais faut le répéter, les curés, tout ce que les curés disaient, tout ce qu'ils faisaient était...
Oui, ils étaient omniprésents.
C'était omniprésent. Et on était tous un peu, à mon avis, dans une boîte, je dirais pas de Pandore, mais quasiment, pris avec l'esprit catholique romain. Et nous, dès le départ, on s'est moqué des institutions, et l'institution la plus difficile, la plus haïssable à l'époque, celle qu'il fallait absolument détruire, oui. C'était le clergé. Il fallait absolument que le clergé perde tout ce qu'ils avaient d'influence.
On faisait une croix sur bien des choses du passé.
Serge Grenier.
Pour nous, se moquer de la religion, c'était la chose la plus naturelle au monde parce qu'elle avait été tellement, tellement présente et et lourde, et lourde. C'était dans le goût du jour, c'est-à-dire que tout ce qui était critique, tant soit peu virulente de la religion, puis du cléricalisme, avait beaucoup de succès. Le deuxième numéro que j'avais fait, c'était l'examen de conscience. Ça, c'est fou. C'est peut-être le numéro que j'ai fait dans ma vie, à l'époque des cyniques, en tout cas, que j'ai toujours préféré. C'était d'autant plus amusant qu'il fallait que je sois impassible, mais vraiment impassible, comme un confesseur peut l'être dans sa petite boîte noire, dans son confessionnal. Alors, l'examen de conscience, pour les jeunes auditeurs qui ne sauraient pas ce que c'est on rentre en soi-même et on se pose des questions. On fait le ménage de notre conscience. On se demande les péchés qu'on a pu commettre au cours de la journée, de la semaine ou du mois qui vient de s'écouler. En vue, évidemment, d'une bonne confession pour laver l'âme et effacer tous les péchés.
Est-ce que j'ai fait des mauvaises choses? Seul ou avec d'autres? Et si c'est avec d'autres, de quel sexe? Est-ce que j'ai chanté des chansons cochonnes? Est-ce que j'ai raconté des histoires cochonnes? Est-ce que j'ai mangé comme un cochon? Est-ce que j'ai montré mes foufounes? Ai-je sucoté des jujubes? Est-ce que j'ai pris ma douche nue? Me suis-je déjà couché sur le ventre pour mieux jouir? Suis-je immobile ou me meuge?
Chers auditeurs, le poste CKAC est fier de vous présenter son émission où son éminence, le cardinal Paul-Émile Léger, répond aux questions de ses auditeurs qui donnent leur opinion sur le Concile Vatican II. C'est l'émission Un coup de fil avec Paul-Émile. Et avant de passer la parole à notre animateur, l'ami des lépreux, le prince de Galles. Nous allons vous faire entendre chanter par un gay chanoine le commercial de l'archevêché.
Les échos du concile, c'est qu'à l'époque, il y avait le concile Vatican II avec Jean XXIII.
Marc Laurendeau.
Et c'était un des thèmes là, dans l'actualité. C'est un événement qui nous intéressait. Alors, oui, le numéro, au fond... Il y avait d'abord l'apparition du cardinal, et pour le bien faire apparaître et bien le présenter, on a utilisé le thème de Dumouriez. À l'époque, c'est Mme Gagné qui chantait « Prenez Dumouriez, elle est si agréable » ou quelque chose comme ça.
Mais Dumouriez, elle est si agréable, Dumouriez, sa cigarette de bon goût, douceur et saveur, son bout filtre est le meilleur, c'est toujours un de fumer du Morier, c'est toujours un plaisir de fumer du Morier.
Et c'est Marcel qui a eu l'idée, au fond, d'utiliser ça pour présenter le cardinal Léger.
Cardinal Léger, il est si agréable. Léger, c'est l'archevêque de bon goût. Le soir à 7 heures, son chapelet, c'est le meilleur. C'est un jeu amical avec le cardinal. C'est un jeu amical avec le cardinal.
Où sont les photographes? On sait-on où la foi et la morale courent de si grands dangers? le cardinal, l'archevêque, il est fier, n'est-ce pas, car dans les offices, l'on va maintenant supprimer le latin dans les prières. L'avenir nous dira qui a raison. Le changement va être graduel. Quand le prêtre va dire quelque chose, il n'aura plus besoin de kyrie.
On est déjà allé dans certains collèges et couvents.
Serge Grenier.
Je me souviens en particulier d'un couvent de jeunes filles à Nicolette, ça c'était drôle. C'était le conseil étudiant formé des filles du couvent, des étudiantes, qui nous avaient engagés. Les sœurs n'avaient jamais entendu parler de nous. Alors, elles avaient dit oui parce qu'elles devaient donner leur accord. Hein. Alors, elles avaient dit oui à notre engagement sans savoir qui nous étions. Ben, elles l'ont su. Elles l'ont su. Assez raide, merci. Puis les propos qu'on tenait, les sœurs étaient, mon Dieu, je peux pas dire que les cheveux leur dressaient sur la tête là, à cause de la cornette qu'ils portaient puis qu'ils cachaient. De toute façon, il paraît que les sœurs n'ont pas de cheveux puis n'ont pas de seins. Mais ça, c'est une légende urbaine. Mais je me souviens que les sœurs nous regardaient d'un drôle d'air. Quand on a terminé le spectacle, c'est une sœur qui venait nous payer, hein. Et oui, elle nous avait donné l'argent qu'elle nous devait, bien sûr, mais mon Dieu, qu'elle avait mis sa face de bœuf pour le faire. Et j'ai entendu dire que à ce couvent-là, dans les jours qui ont suivi, les bonnes sœurs avaient décidé de virer complètement le conseil étudiant puis de nommer quelqu'un d'autre à leur place pour les punir d'avoir commis un tel crime.
Imaginez que vous avez de l'imagination. Et retrouvez-vous dans une salle de collège, et plus précisément dans une salle de séminaire, où vous allez entendre le père Serge vous raconter la journée du parfait séminariste.
6h-20, levé. Dimanche, grâce matinée jusqu'à 6h. Dès que tinte le carillon, le séminariste saute en bas de son lit et offre son petit cœur au Sacré-Cœur. 6h50, nous nous rendons au réfectoire pour les agapes fraternelles. Nous nous sustentons en silence. 7h, nous nous rendons à la chapelle, ou plutôt à la salle d'études, où nous pouvons ou bedon avoir d'édifiantes lectures, ou bedon écrire à nos parents pour leur dire que nous sommes très, très heureux d'être au séminaire.
Je me suis attaché aux quatre pour différentes raisons.
Le chanteur Robert Charlebois.
On fréquentait le milieu des boîtes à chansons. Et il n'y avait absolument pas d'humour. Les boîtes à chansons, c'était noir, c'était la chandelle, la bouteille de Chianti. On découvrait notre identité culturelle, l'identification tribale. Et cette magnifique phrase de Félix Leclerc qui avait dit un jour, « Mais les gens, ils viennent pas nous voir, ils viennent se voir. » Parce qu'on était habitué à voir des Français, des Américains, tout, c'était la première fois. Et il n'y avait absolument pas d'humour. Il y avait Clémence Desrochers, Les Cyniques et Jean-Guy Moreau. Yvon était encore à l'état latent, il n'avait pas commencé. Donc, il y avait trois humoristes pour 50 Claude Léveillé, mettons. Ben, pas avec le talent de Claude, bien sûr, là, mais des tourmentés.
Les gens étaient... attentif, la moindre allusion les faisait réagir. C'était un public plus subtil aussi. Alors, ça a été une expérience formidable, ça, d'être mêlé à ça et de participer à ça, parce que nous, l'effervescence nationaliste, là, on la sentait. Les boîtes à chansons, là, c'était comme un thermomètre de la montée du nationalisme au Québec. C'est vraiment comme ça qu'on l'a senti.
Le 3 mars 1965, les Cyniques participent à un gala de financement au profit du RIN, le Rassemblement pour l'indépendance nationale. Sur la scène du Forum de Montréal, un de leurs numéros ne laisse personne indifférent. Peu après, ils reviennent sur cet événement avec la journaliste Renée Larochelle.
Nous avons été hués, et nous nous en vantons, devant 5000 personnes au Forum. Pas parce qu'on était pourris, parce qu'on était mauvais ou parce que c'était pas drôle, mais parce que c'était des régions sociologiques qui forçaient les gens à nous huer. C'était un mercredi des cendres, c'était pas très habile de notre part. On avait présenté un numéro assez anticlérical, peut-être un des plus anticléricaux qu'on ait. Et les gens se sont mis à manifester assez violemment, à crier chou, etc.
Il y en avait d'autres qui manifestaient positivement.
faut bien le remarquer.
Il criait chou à ceux qui criaient chou.
Voilà, oui, il s'en est suivi un vacarme inouï, personne ne s'y reconnaît.
C'était une minorité qui huait, mais une minorité assez près des micros pour qu'on les entende et pour que ça soit gênant. On avait beau essayer de couvrir les huées avec des rires.
Mais que vous faites dans ce temps-là, est-ce que vous vous mettez à chanter à l'ouette?
Ou... Non, non, on est venu nous interrompre en disant quand même c'est pas si grave, on non, est non, passé non, à un autre numéro.
Oui, c'est ça. On a interrompu ce numéro-là, non, il y avait d'autres numéros qui venaient par la suite. Et puis de toute façon, je me demande si c'était vraiment de la censure qu'on pratiquait à notre égard, parce que je me souviens très bien que le numéro suivant celui-là était un numéro qui conseillait d'adopter comme moyen de persuasion des Anglais la torture.
La suite des choses, il y a des critiques dans les journaux, disant « Oh, quand même, Mercredi des Cendres, il aurait pu se retenir ou ils auraient pu laisser de faire ce numéro-là dans une province où la majorité des citoyens sont catholiques, etc., etc. » Mais surtout, c'est le bouche-à-oreille sur le scandale. Alors, dans les semaines qui ont suivi, une compagnie de disques nous a appelés et nous a dit « Ah, on serait intéressé à vous enregistrer. » J'ai parlé au directeur de la compagnie de disques. Je lui ai dit, venez, on fait un spectacle. C'est la Ligue contre les procédures exceptionnelles. C'est un spectacle bénéfice pour la fondation de cette Ligue. Et une fois le spectacle donné, en coulisses, ça mène le représentant de la compagnie de disques, je me rappelle à l'époque, M. Chénier, et qui dit, je veux absolument vous avoir sur disque.
Et là, on a eu une offre de faire une série de spectacles pendant tout l'été, tous les week-ends de l'été, dans les Laurentides. Et là, il y a eu comme un effet d'entraînement presque magique. Il faut dire aussi que le responsable de la compagnie de disques, Jacques Chénier, c'est ce qu'il s'appelait, s'était occupé de notre publicité, et fort bien d'ailleurs. On faisait deux spectacles par soir, le samedi, et c'était à archibonder tout le temps, puis les gens se battaient pour entrer, puis bon, ils se battaient pour réserver des billets. Alors là, dans les journaux à potins de l'époque, les journaux populaires, tout ça, les gens s'étaient mis à parler des cyniques.
Bonsoir, mesdames, bonsoir, demoiselles, bonsoir, messieurs. Good evening, ladies and gentlemen, et bienvenue à la chic Casa Mathieu, and welcome to the chic Casa Mathieu. Nous avons ce soir un spectacle fantastique. We've got a fantastic show. Nous avons un spectacle merveilleux. We've got a very merveilleux show. We've got a gorgeous show. Nous avons un show gorgeux.
L'auteur et dramaturge, Marcel Dubé.
Mais moi, j'étais emballé par eux parce qu'ils étaient ni plus ni moins que les seuls de ce genre à rassembler le public, un public qui voulait rire, qui voulait s'amuser. Les cyniques étaient des étudiants, mais ils ne faisaient pas des blagues d'étudiants. C'était déjà, je pense... Ce que j'aimais chez eux, c'était des professionnels du rire.
Marcel Dubé, c'est un auteur pour qui nous avions la plus grande admiration. C'était le dramaturge à l'époque. D'ailleurs, il a laissé une œuvre inoubliable et encore maintenant extrêmement touchante et pénétrante sur la société québécoise. Alors, il venait nous voir au Totem, entre autres, et il rigolait. Il se tordait, il s'amusait. Moi, ça m'a semblé tout à fait normal de lui demander d'écrire notre première pochette. Ce qu'il a accepté avec une immense gentillesse. Et c'est un texte magnifique. C'est fort bien écrit. On lui sera toujours, tous les quatre, extrêmement reconnaissants pour avoir accepté de faire ça.
Cher cynique, je vais d'abord me confesser. Vous n'êtes pas réputé pour être particulièrement gentil. Mais vous allez me promettre de ne pas abuser de ma confiance et de garder mes aveux secrets. J'ai amèrement regretté d'avoir si longtemps ignoré le plaisir qu'on éprouve à briser des statues. J'ignorais que la profanation pouvait avoir sur le cœur et l'esprit des effets si apaisants. Et je trouve merveilleux que vous, cher cynique, ayez mis 10 ans de moins que moi à comprendre. Quelle entreprise charitable et courageuse est la vôtre, qui consiste à jouer les iconoclastes chaque jour, chaque soir, à venger et à faire rire les victimes innombrables d'un interminable siècle de mirages, de superstitions, d'une longue tradition d'abrutissement collectif, d'affaissement national, de soumission honteuse à une politique et à une religion de bandits et de charlatans. Voilà ce dont je voulais me confesser. d'avoir ri, applaudi et crié bravo à plusieurs reprises, à vos blagues mordantes, à vos sacrilèges, à vos calembours, à vos caricatures impitoyables, à vos chansons, à vos loufoqueries, à vos imitations. Avant que vous n'entriez une autre fois en scène, mes chers cyniques, laissez-moi donc vous dire merde.
Vous savez que les cannibales ouvriront bientôt, ici même, dans le Nord, un magnifique restaurant où on pourra manger du financier pour 5 $, de l'avocat pour 5 $, du curé pour 5 $, quoique ça se fait déjà, mais gratuitement. On pourra manger également du beatnik pour 50 $. Le temps que ça prend, nettoyez ça.
Serge Grenier.
Le disque ne jouait à peu près pas à la radio, pour une raison bien simple, c'est qu'on avait fait inscrire sur la pochette « Radiodiffusion interdite ». On s'était dit, nous, ça va titiller les gens. Ça, on s'est demandé qu'est-ce que ça veut dire, que c'est trop posé. Donc, on va l'acheter à défaut de l'entendre à la radio. Et le coup avait marché.
On avait fait le totem là, qui avait bien marché.
André Dubois.
Et là, le succès était tel que, bon, on est approché par la Casa Loma. Il y a une compagnie de disques qui dit « Vous allez faire un disque pour nous ». Toutes ces offres-là qui venaient sur la table là, de plus en plus, de sorte que là, il n'était plus possible d'être à la fois... moi, dans mon cas, en 65, je venais d'être reçu au barreau. Donc, j'avais fait des démarches pour travailler dans un bureau d'avocat. Puis, tu sais, je m'apprêtais à entrer dans un de ces bureaux-là au mois de septembre. Saint-Germain était déjà dans un bureau d'avocat. Grenier travaillait au ministère de l'Éducation. Marc terminait son droit. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ou bien on refuse tout, on arrête ça là, puis ça a été le fun, puis bye-bye, c'est fini, puis on s'en va chacun de notre côté. Ou bien on fait le grand saut. Tout le monde, on abandonne tout. Et on fait de l'humour à plein temps. J'étais programmé pour devenir un avocat. J'étais un gars qui avait toujours privilégié l'étude depuis le cours classique. Puis j'avais fait un bon cours de droit. Je rêvais de faire une carrière en diplomatie. Je m'étais inscrit aussi à l'École des hautes études internationales. Rien à voir avec l'humour. Et voilà que là, il faut prendre cette décision-là. Tout laisser tomber ça. Tu travailles fort pour finir par être membre du barreau. Mais l'humour l'a emporté, le plaisir à faire ce qu'on faisait l'a emporté. Tout le monde nous a appuyés, nos proches nous ont appuyés. Et on a décidé de se lancer là-dedans en plein temps.
Mais tout ça s'est décidé très, très vite. Hein. À partir du moment où ça s'est enclenché en 65, après le gala du RIN et le premier disque, ça a été fulgurant. Ça a été extraordinaire. On était partout.
En nomination pour le meilleur disque de fantaisiste. Les Baronets, pour les Baronets à la Comédie canadienne, disque jeunesse franco. Les Cyniques, pour les Abominables Cyniques, disque Apex. Jean-Guy Moreau, pour Jean-Guy Moreau, volume 1, disque Céleste. A le prix, ou ont le prix. Ah, ceux qui ont le plus parlé des curés cette année dans le Québec. Les Cyniques sur disque Apex.
Le 13 octobre 1965, les Cyniques reçoivent leur premier Grand Prix du disque. Le prix leur est remis par le père Ambroise dans une soirée animée par le comédien Jean Duceppe à l'Aréna Maurice Richard.
Nous tenons à remercier d'abord la compagnie qui nous a enregistrés pour son choix judicieux.
Nous tenons également à remercier ce soir celui sans lequel ce festival n'aurait jamais eu lieu. Celui sans lequel vous, mesdames et messieurs, ainsi que nous ne serions pas ici, vous l'avez tous deviné, Maurice Richard.
Nous tenons également à remercier Jacques Normand pour ne pas avoir fait de disque, ainsi que Petit Gus et Petit Mousse.
Nous tenons également à remercier M. le ministre de l'Éducation, M. Paul Gérin-Lajoie, pour ne pas avoir fait la compilation des résultats du concours.
Je pense qu'on est mieux de ne pas parler de ça. J'ai entendu dire qu'il était ici ce soir.
Il est ici ce soir? Où ça?
Oui, là-bas, là, à côté de la robe voyante, là.
Il est venu avec Muriel Millard?
Non, là-bas, là. Regarde l'homme avec les cheveux frisés, bien rasés, bien frappe, bien élégant, là.
Ah, oui.
Le ministre, c'est l'autre à côté.
Ah, oh, mais quand même, le ministre de l'Éducation est un homme dans le vent, un homme yéyé.
Oui, il paraît d'ailleurs qu'il va partir au sein même du cabinet un nouveau groupe yéyé. Les Rouges-Gorges.
C'est évidemment M. Jean Lesage qui, pour le groupe, ferait les arrangements.
Et évidemment, M. René Lévesque, comme d'habitude, serait second violon.
M. Bonarseneau va tourner les pages. C'est ce qu'il y a de plus facile à faire.
Claude Wagner, batteur.
J'ai l'impression que nous commençons à savoir rire de nous-mêmes, c'est que nous prenons un peu de maturité.
Archive, Stéphane Gourde et Marie-Lie Houle. Technicien, Christian Ferland. Narration, Marie-Ève Soutière. Recherche, entrevue et réalisation, Mathieu Beauchamp. Les Cyniques, méchante révolution, est une production de la première chaîne de Radio-Canada à Montréal.